et bienvenue dans le SAV de la F1 consacré au Grand Prix d'Australie. Oh, chers amis, nous avons été entendus par les dieux de la F1 et les dieux de la pluie qui, eux aussi, pensent que commencer la saison par Bahreïn, c'était franchement pas top. Rien que pour nous, ils nous ont offert une manche aux antipodes de grande classe qui, on l'espère, sera un vrai début tonitruant pour cette saison et pas simplement une averse passagère dans notre défilé dominical préféré. Pour m'accompagner, comme d'habitude, ils sont toujours fidèles devant leur poste. Ils avaient préparé le café samedi et dimanche et j'espère juste qu'ils ne se sont pas fait avoir par le changement d'heure dimanche. Bonjour Dino, bonjour Enzo.
Bonjour.
Bonjour.
Non, juste pour info, il y a un but de Bordeaux.
Oui.
Alors juste pour info, je me suis pas fait avoir par le changement d'heure. Et en fait, je me suis réveillé une heure trop tôt. Je sais pas comment j'ai fait.
C'est original, ça.
Je me suis levé à 5h30, ancienne heure.
Et moi, en fait,
donc, en gros, moi, ça me manque les Grands Prix qui commencent pas à 5h, donc j'ai voulu le faire, voilà.
Moi, j'ai réglé mon téléphone portable pour qu'il sonne une heure avant, une heure pendant et une heure après. Au cas où.
Ah, ça va. Alors, aucun, ça vous a plu?
Oh non, c'était nul à chier, sérieux. La semaine, non, il y a 15 jours, on était deux à trouver ça chiant et Enzo avait défendu le Grand Prix. Bon, là, je pense que vous allez être deux à trouver ça bien, donc il en faut un qui dit que c'était de la merde.
Mais je vous l'avais dit qu'il fallait pas s'inquiéter.
Mais ça n'a aucun rapport avec la réglementation.
Mais bien sûr que si.
Mais non, c'est la flotte.
Mais pas seulement.
Pas seulement.
Pas seulement.
Les écarts ont fait que tout était possible, mais en dehors de ça, c'est quand même la pluie qui dynamite la course.
Namite.
Mais c'était quand même bien.
Oui, c'est... Non mais je déconne, sérieusement, elle était super cette course. Mais il en faut toujours un qui ait une opinion un peu contraire.
Ah. Puis c'est vrai que t'es assez spécialiste dans ce rôle.
Oui, c'est vrai. Alors, dimanche, nous étions le 28 mars. Et je vous entends déjà, vous, derrière, en train de crier, de pleurer en disant « Non, non, ne fais pas cette rubrique !» Eh bien...
Ah, t'as eu des mails?
Il y en a qui ont dit « Si, pour bien, il faut revenir à l'ancienne formule et tout, le chiffre nous manque. » Il y en a un qui a dit ça.
Oui, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas à vivre ça en direct.
Jingle.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Ah, je l'avais oublié.
C'est un jeu de mots.
Nul.
C'est pas drôle, en fait.
C'est nul. J'avais oublié.
Donc, 28 mars, là, Saint-Gontran. Oui, c'est pas... Oui. Qui encore s'appelle Gontran aujourd'hui, mais c'est la Saint-Gontran.
La Saint-Cyril aussi, non?
Peut-être. Mais c'est aussi la Saint-Gontran. Et donc, le 28 mars...
Et si le gel à Saint-Gontran, je sais plus quoi, ne seront pas grands.
Ah...
Si c'est Wikipédia qui me l'a dit.
Sans doute.
Ouais, il allait sur Wikipédia, lui.
Ouh là là.
Je déclare forfait.
Mais non, mais tu vas trouver des trucs.
Ouais, bien sûr.
J'ai abaissé le niveau pour toi.
Ah, salaud.
Donc, le 28 mars, il faut savoir que le 28 mars a été inventé la machine à laver.
Je croyais que le 28 mars, ça avait été un jour qui avait été inventé.
Moi aussi, j'ai
compris. Alors, il n'y en avait pas avant de passer du 27
au 27 au 29.
Et en fait, non, un jour, il y a un mec qui dit, ça serait bien qu'on mette un 28 quand même.
Et si on inventait le 30 février?
Bah, c'est le 1er mars.
Oui. Bah non. Sinon, ça serait pas le 30 février.
Oui, bon, d'accord, ok. C'est mauvais, toutes les bonnes idées sont critiquées dans cette émission, hein.
Donc la machine à laver, enfin exactement le brevet d'invention a été déposé par l'américain Nathaniel Briggs. Et ce que je vous demande, c'est alors peut-être pas l'année exacte, mais l'année à peu près.
1834.
Non.
Ça m'a fait peur sans ce coup-là. Ça doit être 19e.
C'est pas 19e.
18e.
C'est 18e.
1723.
Non, c'est plus tard.
Oh, c'est après
la machine à vapeur. Il est américain.
78, 92. 1792.
je ne demandais pas l'année exacte, donc je vais quand même l'attribuer à Enzo, parce que c'est 1797. Et il a 1792.
Mais... Ouais, mais c'est pas très clair, cette règle.
Ouais, enfin, en même temps, le temps que vous disiez toutes les années du 18e siècle...
Mais non, on a commencé à 1776. ça fait que 24.
Ouais, mais quand même.
Et ça marche à l'électricité?
Ça, l'histoire ne le dit pas, c'était peut-être à main.
À la vapeur, non? Y a pas un rapport avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt?
Oh, quel frime, merci, là. Ah. C'est Denis Pimpin qui a inventé la machine à vapeur.
Non, faudra que vous écoutiez les anciennes émissions.
Un autre fait marquant, en 1995. Le supermarché rallye de Gap a réalisé quelque chose, un truc énorme.
Le supermarché rallye?
Oui.
Ah, mais j'y étais.
Bah, la plus longue file de...
C'est possible.
Et mais j'y étais. Parce que j'allais beaucoup en vacances par là-bas.
Ah, et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
La plus longue file de caddie?
Je veux pas vous le dire parce que je vais laisser...
Devine, Gino.
Le record du monde de caddie, non? Je sais pas.
Non, c'est pas lié au caddie.
J'y ai participé.
C'est un supermarché?
Oui.
Ah oui.
Je sais pas, 95... En fait, j'ai pas compris la question.
Le supermarché rallye, c'est le nom du supermarché de Gap, a réalisé quelque chose. Quelque chose d'énorme.
Un record du monde, non?
C'est pas impossible que ça soit un record du monde.
La plus grande tarte, la plus grande pizza...
Ah, une tarte. Une tarte à quoi?
Une quiche.
Myrtille.
La tarte...
Mais myrtille, on est dans les Alpes.
Alors, moi, j'ai tarte au pruneau, mais c'est possible qu'en effet, ça soit myrtille, vu que ce soit les...
Ah, les mecs non, sont vachement... Oh, c'est peut-être pruneau. Oh, c'est peut-être myrtille.
Non, possible. Mais moi, j'ai pruneau, mais vu qu'Enzo y a été...
Mais non, j'y étais pas.
Tu es crédule, Shinji, tu es crédule, tu laisses pas faire.
Elle mesurait 4 mètres de diamètre et pesait 194 kilos. Vous imaginez du pruneau en plus? Les naissances, le 28 mars 1948, et ce n'est pas un être humain, c'est un animal.
C'est un ordinateur.
Non, c'est un animal. Et ça n'est pas un animal réel.
Mickey.
Ce n'est pas Mickey, Mickey doit être plus vieux, je crois.
Astrodoy. Alors...
Non, c'est un animal.
Animal. C'est de Walt Disney?
C'est pas de Walt Disney.
C'est un manga.
C'est pas un manga non plus.
Une BD française.
C'est une BD.
Belge. Un Tintin.
Française. Milou.
Il est fixe.
Non, mais c'est le bon animal.
Le chien. Pluto, Albator.
Non.
Albator. You know what, Droopy.
Non. Droopy aussi doit être vieux.
Un chien français.
Chien.
Français, oui.
Garfield.
Non.
Le chat de Gus.
Cubitus.
Non, pas Cubitus. Je vous donne un indice. Si vous trouvez pas.
Ah, Pif.
C'est Pif le chien.
Et paf.
Qui apparaît pour la première fois dans le journal L'Humanité. Pifou, qui était son fils et qui faisait Glop Glop ou pas Glop.
C'est vrai, pas Glop.
C'est vraiment.
Et il y avait des gadgets.
Ouais.
Et c'était le parti communiste qui était à la tête de Pif Gadget. Il faut le savoir.
Ça existe plus, ça, Pif Gadget, maintenant?
Non.
Je crois que c'est ressorti récemment sous forme de mensuel. Autre naissance le 28 mars. Et là vraiment, le niveau est tombé bien bas. C'est pour toi, Dino.
Ah, arrête, à chaque fois, tu me dis ça.
C'est un présentateur télé.
PPD. Oui.
Non.
La gaffe.
Denis Brognard.
Quelle année?
1970.
Okay, je sais comment il s'appelle.
Ruquier.
Non.
Comment il s'appelle l'autre, là, que je veux pas saquer?
Il y a des chances que vous ne saquiez pas, en effet.
Ah, comment il s'appelle ceux qui gueulaient dans son... Bref. Qui fait des chansons aussi. Mais t'as cagoule.
Oh, il a pas 40 ans. 70, il aurait 40 ans aujourd'hui, Michael. Eh ben,
Michael Young. C'est pas lui?
Il a pas 40 ans.
C'est pas lui.
Quelle chaîne?
Première chaîne.
Oh, tout ça pour pas dire TF1.
TF1. Ouais.
Jean-Louis Moncey, Christophe Malbranck.
Ah, Courbet.
Maintenant, il est plus sur la une, Courbet.
Jean-Marc Castaldi.
Bravo.
Ah oh, ouais.
Je suis con, je l'ai vu ça, quel con.
Et on descend le niveau, il trouve. Ils nous ont quittés ce jour-là, le 28 mars 1969. Attention, c'est du sérieux. C'est un président des États-Unis. Il a
Eisenhower.
Été le... bravo Enzo, c'est Eisenhower. Un décès un peu plus récent, 2004.
Jordi.
Pas mort, Jordi.
Il est pas mort.
Ah merde.
C'est un acteur britannique. Il a joué notamment dans Spartacus,
oh.
Pour lequel il a eu un Oscar.
Je suis nul, moi, là-dessus. Sigourney Weaver.
Non. C'est un acteur. Ah, c'est qui? T'as d'autres indices?
Alors, au cinéma, il a fait deux films où il incarnait Hercule Poirot.
Ah, bah, je connais pas, alors. Moustachu, un peu gros.
Là, il a joué dans Top Capi, il a joué dans L'Âge de Cristal.
Dans L'Âge de Cristal, là, ça, par contre, ça me parle.
Pas Piège de Cristal, hein, L'Âge de Cristal.
Ah, ouais, merde. Ça me parle moins. Non, j'ai de mal en gauche, là, sur celui-là.
C'était Peter Ustinov.
Ah oui, non mais là le pire c'est que je connais de nom. Je suis incapable de te dire de quelle tête il a, mais je connais de nom.
Bah pas moi.
Les fêtes du jour. Alors pas de fête internationale.
C'est la Saint-Gontran.
C'est la Saint-Gontran. Et en Chine, c'est une fête. Alors ne vous marrez pas. Le 28 mars, c'est le jour d'émancipation des cerfs au Tibet. Et donc depuis 2009, sur décision de l'Assemblée nationale, elle commémore entre guillemets, la fin de l'oppression féodale au Tibet en 1959.
Le jour des cerfs ?
Oui, le jour d'émancipation des cerfs, parce que c'était des paysans.
C'est ah paysans.
Ah, tu pensais que c'était les animaux ?
Ah oui, je me disais, qu'est-ce qu'ils sont pensés ? Je disais, c'est
animaux.
Il y a un jour dans l'année où les cerfs s'émancipent un peu, quoi, où ils font ce qu'ils ont à faire, c'est le 21 mars.
Et alors, en F1, le 28 mars, nous allons monter au 28 mars 1976. C'était le troisième Grand Prix. Et c'était le Grand Prix États-Unis Ouest.
Phoenix.
Vegas.
Ah, c'était où, voilà?
Bah, Vegas, sur le parking.
Il vient de dire Phoenix, lui. C'est à Dallas. En quelle année, tu dis?
1976.
Long Beach? Ah non, Long Beach.
Ouais.
Non, Floride.
Si. Ouais, Long Beach.
Oh putain, je suis trop bon.
Hein. Et alors Dino, qui c'est qui avait gagné? En plus c'est Ferrari.
76?
Bah c'est Loda.
James Hunt.
Non, Loda il a fini deuxième.
Regazzoni?
C'est Regazzoni premier, Loda deuxième.
La vache, j'ai dit Regazzoni.
Et troisième, c'est un français sur Tyrell Ford.
Bah Lafitte. Oui.
Dupayé.
Ouais, Patrick Dupayé. C'est bien, vous avez été bon cette semaine.
Bah écoute, oui, voilà, on essaie de faire ce qu'on
veut. Mais je suis déçu, Shinji, parce que tu aurais pu dire aussi que le 28 mars 2008, c'était la mort de Jean-Marie Balestre, qui a quand même fait beaucoup pour la F1 et la sécurité des pilotes.
Oh la vache, comment il t'a cassé la vache.
Il fallait garder pour la ta rubrique historique, ça.
Mais pas du tout.
Oh l'autre, et comment il te renvoie dans tes cordes? Non, il a raison là, Enzo. Enfin, Shinji, Enzo a raison.
Je me suis fait chier à lire la page Wikipédia du 28 mars, j'en ai retenu qu'un seul.
Je suis sûr.
Et le pire, je suis dégoûté parce que Castaldi, je l'ai lu et j'ai pas retenu.
Donc, maintenant, le JT, c'est à vous.
Comment ça, c'est à nous? C'est à nous.
Oui.
Ah, c'est à vous?
C'est à vous?
Non.
Bah oui.
Non.
Non. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT du SAV.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 30 mars 2010 et tout de suite commençons avec notre dossier spécial.
Non, en fait on va passer directement aux infos en vrac si ça te dérange pas Enzo.
Ah bah non, tu m'as dit qu'on avait un super dossier cette semaine.
Oui, enfin non, enfin, disons que je croyais que mes sources étaient bonnes et en fait...
Ouais, elles étaient toutes pourries quoi, comme d'hab quoi, allez c'est ça.
Non, elles sont pas tout le temps pourries, des fois, parfois, une fois de temps en temps, elles sont bonnes.
Eh hey Dino, ça serait pas à toi ce dossier par hasard?
De quoi? Ah ça, non, ça c'est pas à moi.
Arrête, il y a ton nom écrit dessus.
Ouais mais c'est pas parce qu'il y a mon nom écrit dessus que c'est forcément mon dossier.
Tiens, Fitzindy, je veux voir ce qu'il y a dedans.
Ah, ce dossier-là, oui, non, excuse-moi, c'est... Oui, c'est à moi, je l'avais oublié, excuse-moi.
Dans la poubelle.
Oui, ça m'arrive de ranger des choses dans la poubelle. Voilà, quoi, ça, c'est... Mais regardez pas comme ça, c'est bon, chacun ses méthodes de rangement.
Bon alors, Dino, qu'est-ce qu'on fait, là?
Bah, je pense qu'il vaut mieux qu'on passe aux infos en vrac.
Non, bah, arrête, là, t'as ton dossier, là, c'est quoi, là? C'est ton dossier spécial, à vous.
Oui, mais comme je te l'ai dit, il vaut mieux qu'on l'enterre.
Mais explique-nous au moins pourquoi tu veux pas qu'on le fasse.
C'est juste les sources, elles sont pas bonnes, c'est tout.
Ouais, bah, ça, c'est pas la première fois que tes sources pourries t'empêchent de faire un dossier, allez, crash.
Oh! Ah, oh, comme je suis maladroit, j'ai fait tomber mon café dessus. Ça se trouve, c'est illisible maintenant, hein.
Ouais. Allez, sérieux, Dino, là, tu commences à me saouler, là. Tu me caches quelque chose, je le sens.
Mais non, t'es psychopathe ou quoi?
Paranoïaque, plutôt, non?
Ah ah ah, bah, tu vois, tu le reconnais toi-même. T'es paranoïaque. Je te jure, je te cache rien.
Tu viens de croiser les doigts, là, j'ai vu.
Mais jamais de la vie, je te jure.
Arrête, tu recommences, tu viens de croiser tes doigts. Allez, je veux savoir ce que tu me caches. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier?
Mais rien.
Dino, soit tu me dis ce qu'il y a dans ce dossier, soit je quitte l'émission. J'ai été patient l'an dernier lorsque tu m'interrompais sans arrêt sur Rosberg. J'ai fait l'impasse sur ton push concernant Bouillonnemi en fin de saison. Mais là, tu me caches quelque chose et ça se passera pas comme ça. Alors tu me le dis et tout de suite.
Bon, d'accord, mais je te préviens, tu vas pas aimer.
Ah, je savais que tu me cachais un truc.
T'es vraiment sûr que tu veux que je le fasse?
T'as un peu aiguisé mon appétit, alors vas-y.
Bon bah, je t'aurais prévenu, hein, tu viendras pas te plaindre. Il y a moins de 2 semaines, la F1 se réveillait d'une longue hibernation, en plein cauchemar. Dans la fournaise Bahreïni, la F1 a en effet donné une bien piètre image, malgré les efforts employés, après une course jugée quasi unanimement loin des espérances.
Bon, elle était bien cette course, moi je l'ai bien aimée.
Ouais, c'est ça, d'où le quasi unanimement, Enzo. C'est pour ça que je précisais. Dès le lendemain de la course, le branle-bas de combat fut donc sonné pour sauver la F1, un grand coup de nouvelles réformes et d'idées parfois ingénieuses, d'autres fois curieuses, et pour certaines farfelues. La dernière en date aura été formulée par Martin Whitmarsh, team manager de l'écurie McLaren et président de la FOTA, qui propose de s'inspirer de d'autres formules de promotion. Il s'agirait en fait pour les qualifications de répartir les pilotes en 2 poules, dont les plus rapides se départageraient dans des quarts de finale, puis des demi-finales, et enfin une finale pour désigner l'auteur de la pole.
Ah oui, comme en Super League Formula.
Non, non, pas la Super League Formula.
Eh ben voilà, j'avais prévenu.
Nous entrons dans le dernier tour. Le temps réglementaire est terminé, ce sont les arrêts de jeu. Le PSV Eindhoven est toujours en tête devant le Milan AC. Mais les Girondins de Bordeaux remontent à toute vitesse. Franck Montagny dribble. Il dribble son vis-à-vis Villeneuve. Oh là là, le petit pont magnifique. Le Français se trouve face au gardien. Il tente une première attaque dans la lucarne. Oh non, c'est le poteau. Ah, mais il récupère le contrôle et tente une nouvelle fois le passé. Il esquive parce que le gardien bête. La France est championne du monde.
On va peut-être passer aux infos en vrac là.
Ah, quelle sensation. En tout cas, mon petit Jean-Mimi, après ça, on peut mourir tranquille.
Vite, les infos en vrac. Bahreïn, après sa 2e place lors de la course inaugurale, sa première participation en Grand Prix depuis son terrible accident lors des qualifications hongroises, Felipe Massa se montrait heureux de sa performance en conférence de presse. Ainsi déclarait-il, je cite, « Je suis très content de ce résultat et je veux remercier toute l'équipe et tous nos supporters. C'est ma meilleure course d'ouverture d'une saison depuis que j'ai débuté en Formule 1 et étant donné tous les problèmes que nous avons eus, je suis vraiment ravi. » Fin de citation. Pourtant, c'est la panique au Brésil, malgré ce doublé des pilotes Ferrari, et Felipe Massa se serait même rendu en urgence à Sao Paulo pour rassurer les siens. En effet, à la suite du podium où le Brésilien semblait moins heureux que dans ses déclarations, le chirurgien esthétique qui a opéré à sa reconstruction faciale se serait inquiété de la réussite de son opération. Après consultation, il s'avère que l'opération a bel et bien fonctionné, et on ne s'explique toujours pas la tronche de 6 pieds de long que tirait Felipe.
Sécurité routière, cette 26e édition du Grand Prix d'Australie a marqué le lancement de la campagne Make Safe Roads pour faire de cette nouvelle décennie la décennie de la sécurité routière. L'objectif de cette campagne, notamment portée par Michel Huey, la compagne de Jean Todt, a pour but d'imposer la sécurité routière dans l'agenda des Nations Unies et des diverses réunions du G8 et vise comme objectif d'éviter 5 millions de morts à travers le monde. Et pourtant, cette campagne aura très mal débuté, le paddock ayant été témoin de diverses sorties de piste. Ce fut d'abord un camion de l'écurie Red Bull, accidenté, sans dommage, après avoir percuté une voiture. Que les fans de Kimi Räikkönen se rassurent, le Finlandais ne semble pas impliqué. Ce fut ensuite les pilotes qui s'illustrèrent lors des essais avec plusieurs pénalités pour excès de vitesse, dont la plus importante fut infligée au Russe Vitaly Petrov. Michael Schumacher fut à son tour l'investigateur d'une polémique accusant Lewis Hamilton et Fernando Alonso de l'avoir gêné en qualification. Affaire sans suite, ce qui ne fut pas le cas pour De La Rosa, réprimandé par les commissaires pour le même délit. Après l'épreuve, ce fut au tour de Mark Webber d'être sanctionné pour son pilotage pendant la course. Mais le clou du spectacle restera sans doute l'arrestation du champion du monde 2008, Lewis Hamilton, auteur de burn sur la voie publique et d'une queue de poisson. Le pilote McLaren s'est une nouvelle fois excusé par biais d'un communiqué de presse, et cette fois-ci l'anglais n'a pas menti puisqu'il a reconnu sa stupidité.
De son côté, Mark Webber a soutenu son collègue anglais en critiquant vivement la réglementation australienne. Il faut lire un livre d'instruction lorsque nous sortons du lit pour savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, déclare le pilote local, en parlant d'un état nounou. Dans la foulée, l'état australien a décidé de publier un nouveau livre d'instruction dont Mark Webber pourrait tirer quelques conseils avisés. Son titre, Guide pour ne pas cartonner le pilote devant soi, quand vous êtes dans une lutte à trois. Red Bull en aurait déjà commandé un exemplaire.
Transfert. La saison a à peine débuté, le paddock bruisse déjà des rumeurs de transfert pour 2011. Avant le Grand Prix, Lewis Hamilton avait annoncé la retraite prochaine de Mark Webber, dont le contrat arrive à son terme. Mais le pilote australien a démenti par voie de presse. Son avenir n'en est pour autant pas assuré, puisqu'il se murmure que Red Bull, après avoir vu les prestations de l'Australien lors des deux premiers Grands Prix, envisage de s'attacher les services de Kimi Raikkonen pour la saison prochaine. Selon certaines de nos sources, il se pourrait même que le Finlandais arrive plus tôt que prévu dans l'écurie autrichienne. Vu la malchance dont il fait preuve en rallye, Red Bull espérerait ainsi attirer le chat noir qui se niche dans la monoplace de Sébastien Vettel.
Virgin, l'écurie britannique propriété de Richard Branson, pourrait revoir sa copie concernant la VR01 qui devrait prochainement bénéficier d'une version B. En effet, les ingénieurs ont sous-estimé la consommation du moteur Cosworth et ont opté pour un réservoir limite qui ne permet pas à Timo Glock et Luca Di Grassi de finir les courses, à moins bien évidemment de rouler en mode économie à 3 secondes des Lotus. Virgin a donc obtenu l'autorisation de la FIA pour revoir son châssis, mais devra passer de nouveaux crash tests. Tout espoir n'est donc pas perdu quant à un retour de Ralf Schumacher.
D'ailleurs, Richard Branson se fixe un objectif clair, atteindre les top teams d'ici 3 ans. En attendant, ses pilotes aimeraient tout simplement atteindre l'arrivée.
Économie. La crise frappe toujours de plein fouet le monde de l'automobile. Les constructeurs français ne sont pas épargnés, mais Citroën est le seul dont les ventes sont en augmentation. Normal, Kimi Raikkonen change régulièrement de voiture.
Endurance. Les anciens pilotes de F1 ont brillé aux 12 heures de Sebring. Si l'équipage composé d'Anthony Davidson, Alexander Wurz et Marc Genet s'est imposé, la deuxième Peugeot 908, copilotée par Sébastien Bourdais, a un temps mené la course avant de devoir se contenter une nouvelle fois de la deuxième place devant sa sœur jumelle. Dans les coulisses, le patron de Peugeot Sport en a profité pour marquer son territoire en affirmant vouloir l'exclusivité de ses pilotes et a donc déclaré qu'il n'y aurait plus de pilotes déjà en course en Formule 1 ou pouvant potentiellement y accéder. Pour cela, le Lyon a joué la carte de la sécurité en annonçant Bourdais, Pagenaud, Montagny et Sarrazin dans ses équipages du Mans. Ils ont en effet la certitude, en choisissant 4 pilotes français, d'en avoir l'exclusivité.
C'est ainsi que nous allons conclure cette nouvelle édition du JT du SAV. Nous vous invitons bien évidemment à rester sur notre antenne, à suivre la question actu qui passe inaperçue.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou ! L'actu ! Où es-tu ?
Alors messieurs, pas de Google, pas de Wikipédia, pas de Yahoo, etc. Ma question est la suivante. Pour quelle raison Kit Willow Podgornik en a-t-elle mis plein les yeux aux fans de F1 à Melbourne ?
C'est un mannequin ?
Non.
C'est une personne ou deux ? Je comprends pas.
Bah, son nom, c'est Kit Willow Podgornik. C'est un nom, sans doute une divorcée.
Ah, bien sûr.
Elle en a mis plein les yeux.
Elle en a mis plein les yeux aux fans de F1 à Melbourne.
Elle était invitée?
Oui, elle a été invitée.
Et il y a un jeu de mots sur plein les yeux?
Non. Tu pensais à plein le casque, toi.
Non, du tout.
Tu pensais qu'il y avait un mec qui avait une... Elle a crevé les yeux d'un mec dans le pit lane.
Est-ce qu'elle a participé à une course qui avait lieu en même temps que ce week-end de Grand Prix?
Non.
Elle en a mis plein les yeux. Elle était invitée par quelle écurie?
Elle n'a pas été invitée par une écurie.
Par l'organisation?
Elle a été invitée par l'organisation en général.
D'accord. Elle est australienne?
Elle est australienne. Et c'est en partie parce qu'elle est australienne qu'elle a été invitée...
C'est à cause de son physique?
Non.
Non, mais non. C'est pour ça qu'elle en a mis plein les yeux ou pas?
Non. C'est pas avec son physique qu'elle en a mis plein les yeux.
C'est une chanteuse?
Non, elle en aurait mis plein les oreilles.
Bah oui,
j'espère pas qu'elle chante. Si elle chante comme elle fait ce qu'elle a fait, vaut mieux pas qu'elle chante.
Est-ce que c'est une personne?
Ah oui, c'est une personne. C'est pas Kit la voiture qui parle. Hein.
Elle a mis plein les yeux dans un côté positif ou le contraire?
Ça va dépendre des points de vue.
C'est pas elle qui a brandi le drapeau à damier puisque c'était Travolta.
C'est vrai. Mais c'était trop simple, ça, comme question.
Et je me doute.
un bien. Petit indice,
C'est un sponsor, non? C'est un sponsor.
Ah, c'est lié à un sponsor. Encore.
À Santander?
De lunettes de soleil?
Non, pas à Santander.
Fosters? Des lunettes de soleil?
Pas à Fosters. Pas une marque de lunettes de soleil.
Qantas?
À Qantas.
C'est vrai?
Ouais.
Qantas, qui est la compagnie australienne, aérienne australienne.
Elle est pilote d'avion?
Non.
Ah.
Pilote d'hélicoptère.
Et vu ce qu'elle fait, il vaut mieux pas qu'elle pilote.
Elle louche?
Non.
On lui a donné une voiture et elle l'a massacrée.
Non. Mais on lui a pas donné une voiture.
Elle une est moto? Contorsionniste.
Pas une moto.
Un dragster.
Un VTT. Non. Rien qui se conduit.
Des rollers.
Non.
Mais elle a massacré quelque chose.
Pour certains, elle a massacré quelque chose.
Elle court à pied.
Non. Elle fait rien de sportif.
Du kangourou.
Elle fait pas du kangourou. C'est plutôt dans le domaine artistique.
Elle a
chanson.
Elle est peintre. Elle a peint les.
Non, elle est pas peintre.
Photographe.
Elle est pas photographe. Mais
dessinatrice.
Mais il y a un lien avec les photographes. Je vais vous donner un indice. Elle a récemment fait la une de Vogue.
C'est une. Elle fait de la mode.
Elle fait de la mode. Oui.
Elle a créé des nouvelles combinaisons pour les pilotes.
Non.
Elle a fait des nouveaux. Elle a fait des nouveaux tenues pour les hôtesses de Qantas.
Eh ben voilà, elle a fait les tenues des Grid Girls, hein, les Pit Babe aussi, c'est le même nom, des Grid Girls de Melbourne. Alors je vais vous donner la photo à vous messieurs pour avoir vos commentaires à chaud.
Et on les a pas vraiment vues en plus.
Et je pense que oui, mais en même temps c'est pas plus. Enfin quoi qu'elles étaient couvertes. Hein. Pour une fois. Donc voilà la photo. Donc vous chers auditeurs, vous irez sur internet, vous cherchez Kit Willow et donc KIT espace Willow WI2LOW et vous trouverez assez facilement les photos de ces charmantes demoiselles.
Bah c'est joli.
Ouais.
Déjà Some Papers, c'est l'intitulé de la page où il y a Monsters and Critics.
Oui. Ouais.
le chapeau est joli.
c'est important, c'est le chapeau est joli. Alors bon, c'est une demande de. Elle a été invitée à la demande de Qantas à faire les nouvelles tenues des Grid Girls. Qantas est devenu le nouveau sponsor titre du Grand Prix d'Australie après le retrait d'ING. Et ils ont eu une demande assez particulière que nous explique Kit Willow dans une interview. Donc là, je cite. Hein. Qantas voulait quelque chose de stylé et d'élégant pour les Grid Girls. Mais après, il y a le Grand Prix et je devais respecter ces traditions en matière de bon d'accord en matière de cul et de nichon. Voilà, c'était ça le challenge. Et c'est vrai que il faut reconnaître que depuis longtemps, l'opinion publique est nourrie par le cliché du fan de F1 dont le seul intérêt est de voir tourner en rond des voitures après s'être rincé l'œil devant quelques paires d'euros ploplo. Alors bon bah pour ceux qui n'ont que l'audio et pas le visuel, c'est une nouvelle tenue qui est en effet assez stylée avec des bottines avec des lacets devant qui montent jusqu'aux genoux, un petit short ample en une espèce de matière imitation cuir. Pour le buste, un petit body noir moulant avec un sympathique décolleté, mais le tout surmonté d'une espèce de voilage à l'italienne en deuil, d'accord, et le tout chapeauté d'un magnifique borsalino blanc et noir, sans doute la meilleure partie du costume, pour un ensemble qui effectivement tranche très franchement avec le traditionnel shorty et body moulant en lycra avec décolleté plongeant. Alors comme je vous l'ai dit, elle a été critiquée, ça fait pas l'unanimité, d'abord parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en Australie, et que dans ce domaine-là, il y a une certaine tradition de la Pit Babe en Australie, que ce soit en ouverture des V8 Supercars, ou des courses de Surfers Paradise en Champ Car puis en IndyCar. Et là, je parle aux nostalgiques que vous êtes, messieurs. Et je sais que certains d'entre nous se rappelleront avec émotion de cette époque bénie où la F1 était sponsorisée par des marques de clopes ou de bière, comme ce fut le cas du Grand Prix d'Australie, par la marque Forsters, et ses plantureuses hôtesses aux tenues, disons, valorisantes.
Bleu.
Hélas, diront certains encore, ING est passé par là avec ses tenues aussi valorisantes pour les courbes d'une magnifique hôtesse australienne que s'est livrée l'été pour les Renault. Pour finir, les nouvelles hôtesses de Melbourne ont cette fois-ci l'avantage d'être stylées, c'est vrai, elles ont du look, c'est assez mode. Même si pour le coup, et ça n'est sans doute pas anodin, vu le sponsor, elles font quand même 13 hôtesses de l'air. Même si, comme le souligne, alors attention, là je me suis documenté, hein. Comme le souligne l'éditorialiste de mode australienne Sacha Strieb, c'est un choc des cultures Et là, je traduis un peu l'idée. Elle a dit en parlant de ses tenues de Grid Girl que c'était un peu comme habiller Clara Morgan en mère au foyer. Voilà. Mais cependant, faut finir quand même sur une note un peu positive et féministe. Sacha Strieb souligne quand même que c'est un progrès pour les femmes et pour la haute couture, puisque les femmes sur les grands prix ne sont donc plus réduites qu'à un simple morceau de viande. C'est un progrès par rapport aux traditionnelles tenues des Grid Girls, même si pour le coup, elle pense qu'on est peut-être un petit peu allé trop dans la direction opposée. On voit pas assez de nichons, quoi. Voilà.
Waouh.
Ben voilà, c'était la question actuelle qui passe inaperçue.
Pensez qu'on ferait 5 minutes sur les Grid Girls dans cette émission. Waouh.
Ah non, mais on est tombé bien bas.
Je tiens quand même à rassurer Maëlle. Voilà, hein, on ne parle jamais des Grid Girls. Là, je me suis dit, pour le coup, faut qu'on en parle, mais faut qu'on fasse ça avec style quand même.
Et d'ailleurs, Dino s'est engagé à envoyer à Maëlle une de ses tenues.
Non, j'avais, non. Hein, tu es gentil, Maëlle, mais non, je ne peux pas. C'est trop moche, ça tirait pas.
Bon, passons à la course et passons au qualif. Deuxième qualif de l'année pour Sébastien Vettel en 1:23.919. Septième pole position de Sébastien Vettel. Septième pole position pour Red Bull. Et rappelez-vous la semaine dernière, c'est pas.
Ah bon, il a fait les 7.
Non, il a pas fait les 7. 162e pole position pour Renault en tant que motoriste avec une moyenne de 227,491. Alors, la place du cours de la semaine, parce qu'on a dit qu'on la donnerait toutes les semaines, ouais, elle revient à Vitaly Petrov sur Renault. Bon. 1:26.471, soit quand même plus de 2 secondes devant le 19e. Voilà. Dommage.
Mais quand même, oui, 4 dixièmes derrière le 17e.
Ah oui, non, ça.
Non, mais n'empêche, je sais pas si vous avez vu les qualifs.
Non.
Mais alors, je conseille vivement à tous nos auditeurs de se rendre sur le site officiel de la F1, de s'enregistrer et d'aller voir les vidéos. Et vous avez un vidéo, les highlights du Grand Prix, et vous avez à côté le tour embarqué de la pole. Mais il s'est foiré dans son tour embarqué. À la fin, c'était beau parce que dans les derniers virages, il est parti à un moment donné en crabe.
Qui ça, Vettel?
Vettel.
Vettel, oui.
Il s'est repris. C'était magnifique à voir.
Et il était pas content d'ailleurs.
Il était pas content.
Ses petites erreurs à la fin.
Et c'était, honnêtement, c'était superbe de le voir. C'est ça qui manquait un peu l'année dernière et je suis content qu'on fasse plus les qualifs à vide. C'est ce côté un peu attaquant, quoi. Et Vettel, c'est ça, quoi. Il est parti attaquer, même si la voiture dominait sur le week-end et qu'il n'était pas inquiété. Il a fait le meilleur temps en Q1 et en Q2. Il y est allé à fond, il a fait plein d'erreurs. Le tour est pas parfait, mais quand même, tu te dis, c'est un putain de tour, quoi.
Sinon, on pourra noter juste Hamilton qui réussit pas à se qualifier en Q3.
Ça aussi, c'est une place de con.
Ah oui, on peut le dire, c'est la deuxième place du con.
Moi, ça lui va tellement bien pour ce Grand Prix.
J'aurais une question sur Hamilton. Est-ce que vous pensez que son arrestation de vendredi soir a eu un impact sur ses performances de samedi?
J'en ai pas spécialement eu l'impression.
Parce qu'il a été, par rapport à ce qu'on a vu en course, il a été quand même particulièrement mauvais en qualif.
C'est vrai.
Ah, c'est vrai.
Lui-même l'a reconnu. Hein, il a dit qu'il avait été gêné par le trafic, mais qu'il avait eu un ou deux tours clairs et qu'il avait rien à.
Il n'a pas été le seul à être gêné. Finalement, c'est vrai qu'on ne s'explique pas vraiment, bon, à part cette explication du trafic, pourquoi il n'est pas passé. Peut-être. C'est vrai que, bon, faut pas faire de burn-out. Burn-out.
Et des queues de poisson.
Et des queues de poisson. En plus, il l'a fait devant une voiture ou un car de police, c'est ça?
Oui, j'étais pas sûr de l'info, en fait, donc...
Déjà, faut pas le faire, mais si en plus il le fait juste devant les flics.
Non, puis c'est surtout, enfin, faut pas le faire. Surtout là, il y a une campagne qui est faite. Les pilotes, ils ont cherché. Il y a une campagne qui est faite pour la promotion de la sécurité routière en Formule 1. C'est même si ça fait partie de leur boulot tout le temps, c'est quand même une grosse campagne. Et là, l'autre il fait ça, quoi. C'est vraiment débile.
Est-ce qu'il a eu une sanction pas sportive, parce que ça n'a rien à voir avec la course, mais ne serait-ce que financière ou une réprimande de la FIA suite à ça?
Je me rappelle que c'était un peu différent puisque c'était en course là, mais pour le geste de Schumacher en 80, j'ai du mal, en 97 sur Villeneuve.
Ouais, 97.
À Jerez, lors de la dernière course, t'as son coup de roue. Il avait été sanctionné de toutes, on lui avait retiré tous ses points, mais il avait été obligé de promouvoir la sécurité routière avec la FIA et de d'accorder du temps pour sur ce thème-là. Quoi.
C'est ça qui est étonnant, c'est surtout.
Et je pense que ça sera pas mal qu'on fasse ça également à Lewis.
C'est le silence de la FIA qui est étonnant quand même dans cette affaire.
Ouais, c'est vrai.
Après les qualifs, passons à la rubrique d'Enzo, notre cher rubrique. Bah oui.
À chaque fois, il va te le faire, ça, j'ai dit. Prépare-toi.
Mais à chaque fois, il marche. Hein.
Bah attends, t'étais à Tronfilly-Houlébin, là, pour voir la plus grande tarte aux myrtilles.
Ah, il habite dans
à
le
Gap.
À Gap.
Les à Gap.
Et à Gap, il y a un col. Il y a un col à Gap, hein, c'est pas une connerie. Et au niveau du col, il y a un magnifique golf.
Voilà, l'information utile, chers auditeurs.
Que je vous encourage, je vous encourage tous à le faire, à attention néanmoins à prendre de l'anti-moustique parce qu'il y a plein de temps.
Moi, l'anti-insecte. Ah,
voilà.
Ah, j'aime pas ça.
Je m'étais fait un peu bouffer. Bon bref, et j'ai droit à mon jingle, moi.
Ceci est un message du comité de surveillance des podcasts. Pour relever le niveau de l'émission, le service après-vente de la F1 vous présente sa rubrique culture, la minute historique d'Enzo.
Bah voilà, il y a plus que 50 secondes déjà. Donc, en gagnant ce Grand Prix ce week-end, Jenson Button, a rejoint donc notamment Alonso, Loda et Piquet. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire dans quel domaine?
C'est lié au fait que ça soit au Grand Prix d'Australie. C'est
le. Du coup, il a dépassé Schumacher.
Il a gagné deux fois de suite. Deux fois de suite non, avec deux équipes différentes.
Non.
Bah non.
Dis-moi peut-être, oui, mais.
Ouais. Ah, ah, ah.
C'est le fait qu'il ait été champion du monde.
Non.
Non.
C'est lié au fait d'avoir fait un seul arrêt.
Cherchez pas trop loin, c'est très simple en fait.
Eh ben dommage, t'as mais... été passé, donc on va passer à la rubrique suivante.
Alors, vous allez me dire tout de suite, je sens que en plus derrière, je vais vous dire ce que c'est et vous allez dire non, je suis pas d'accord.
Ils ont gagné leur première course face à leur non, c'est pas ça.
Non. En fait, Jenson Button a tout simplement gagné pour la troisième fois avec Duma. Pour trois écuries différentes.
Ouais, mais là, je suis pas d'accord.
Ah, voilà.
Parce que...
Bien sûr, on pourrait dire que Honda et Brown Grand Prix, c'est la même chose.
Voilà.
Mais ça a quand même pas la même appellation. Donc, Alonso, Loda et Piquet ont tous les trois. Alonso, donc, après Renault et McLaren, la semaine dernière, il avait déjà rejoint ce groupe en gagnant pour Ferrari. Donc, je me suis intéressé justement aux pilotes, justement, et le nombre de fois avec combien d'écuries différentes ils avaient pu gagner. Alors déjà, on a des pilotes qui ont gagné de nombreuses fois, mais qui ont gagné avec qu'une seule équipe. Est-ce que vous pouvez m'en citer?
Senna, peut-être?
Ah non.
Non.
Senna a gagné avec Lotus.
Lotus? Non, je...
Hakkinen, Villeneuve.
Alors, Hakkinen, tout à fait. Il a été double champion du monde. Et à chaque fois, il a laissé 20 victoires et toujours sur McLaren.
Villeneuve, non?
Villeneuve sans doute, mais il n'a pas fait tant de victoires que ça, donc pourquoi je l'ai zappé lui?
Bah ouais, je sais pas.
Jacques Villeneuve, il n'a pas gagné avec elle, il n'a pas gagné avec Baron. Ah non, pardon.
À l'époque.
Il n'a pas gagné chez Renault, il n'a pas gagné. Non, oui, tout à fait, il y a Villeneuve, mais bon, il est que simple champion du monde. Il y en a un autre double champion du monde également que vous n'avez pas nommé.
Fittipaldi, non, il est triple. Double.
Clark.
Tout à fait. Jim Clark, qui était double champion du monde et qui a ses 25 victoires quand même, c'est quand même assez impressionnant, les a toutes gagnées sur Lotus.
Intéressant.
Et donc Schumi, lui, malgré ses 7 titres et 91 victoires, n'a gagné que pour Benetton et Ferrari. Alors, la proportion est quand même impressionnante et j'aimerais la rappeler.
Quand même. Oui.
19 victoires avec Benetton, 72 victoires avec Ferrari. Oh, c'est quand même impressionnant.
Tu vois ce qu'il attend, Fernando?
Alors, la question, c'est quels sont les pilotes qui ont fait mieux que gagner avec trois équipes différentes?
Senna, non?
Senna, non, on a dit Lotus et, Lotus et McLaren, il n'a jamais gagné avec Williams, hein, il n'a pas eu le temps.
Mansell? Non.
Non, je ne pense pas. Mansell a dû gagner Williams. Il a dû gagner Williams et Ferrari, Mansell. Hein.
Ouais. C'est McLaren, jamais. Il ne rentrait pas dans la voiture. Non.
Oui. Cherchez parmi ceux qui ont beaucoup de victoires, hein, forcément.
La Prost.
Prost.
Avec Renault, avec McLaren, avec Ferrari et Williams.
Voilà, 9 victoires Renault, 30 McLaren, 5 Ferrari, 7 Williams.
Oh, je suis bon là sur ce coup-là. Ah, les mecs, sérieux.
Un autre pilote qui est. Alors, Prost a gagné 4 écuries différentes. Et quel est l'autre pilote qui a gagné sur 4 équipes différentes?
Pas Fangio.
Eh si, Fangio.
Fangio, 4 équipes.
4 Fangio, 24 victoires, 6 pour Alpha.
Oui, Maserati.
Ah oui!
7 pour Maserati en 2 fois 3 puis 4.
Ferrari, Mercedes.
8 pour Mercedes et 3 pour Ferrari. Et enfin, il y en a un autre, celui qui détient le record, qui a gagné avec 5 équipes différentes et pourtant qui n'a jamais été sacré.
Longue carrière, non?
Oui. 16 victoires.
Barrichello?
Oh.
Ah.
Non. Avec Ferrari et. Pilote récent?
Oh non, forcément non. Un des grands pilotes dont on comprend pas.
Ah bah oui, c'est. Celui qui compare.
Sterling Moss?
Yes.
Voilà, celui qui compare avec Kimi. Enfin, celui dont on compare Kimi.
Donc, 5 équipes. Une victoire avec Mercedes, 2 avec Maserati, 3 avec Van Vol. Non, 6, pardon. 3 plus 3 dans son deuxième passage. 3 avec Cooper en 2 fois également. Et 4 avec Lotus. Donc, 16 victoires au total.
Oui, ben.
Et puis,
il y en a en plus.
Voilà, tout à fait. Après, il y en a qui ont peu de victoires à leur actif, mais qui ont gagné sur plusieurs voitures. On a Jody Scheckter qui a gagné 10 victoires et pourtant 3 écuries différentes.
Ah ouais.
4 avec Tyrrell, 3 avec Wolf, 3 avec Ferrari. On a Gerhard Berger qui a gagné
Ferrari,
Benetton, Ferrari et McLaren. Alors, ce qui est marrant pour Gerhard Berger, c'est qu'il a fait 10 victoires, mais en fait, au total, il y a eu 5 phases, puisque McLaren, du moins Benetton, il y a été au début de sa carrière et à la fin de sa carrière. Ferrari, il y a été après Benetton et avant Benetton. Et au milieu, il y a McLaren. Donc au total, il a gagné une fois plus une fois Benetton, donc 2 victoires chez Benetton. Chez Ferrari, 5, 4 fois lors de son premier passage en 87 à 89 et une fois en 94. Et McLaren, entre 91 et 92, où il y a 3 victoires. Il y a John Surtees aussi qui, malgré que 6 victoires a gagné pour Ferrari, pour Cooper et pour un autre, je me suis trompé, j'ai noté une autre fois Ferrari, je ne sais plus qui c'est. Et puis,
il n'a pas gagné sur sa propre équipe?
Ah, peut-être. Ah. Et puis, on avait un pilote dont on avait déjà parlé l'an dernier, qui s'appelle Dan Gurney.
Gurney, ouais.
Très connu aux États-Unis.
Et qui a gagné pour 3 équipes, alors qu'il n'a que 4 victoires. Il a gagné une victoire pour Porsche, 2 pour Brabham et 1 pour Eagle. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on en avait parlé l'an dernier?
Dan Gurney, on a dû en parler pour...
C'était pas pour Eagle, parce que c'était son écurie? Quelque chose comme ça, par rapport à Brown?
Non. En fait, on en avait parlé quand on avait parlé de Vettel, qui avait offert sa première victoire à deux équipes différentes. Équipes. Et c'était c'est le cas de Dan Gurney qui avait fait gagner Porsche et Eagle pour la première fois. Alors je me suis amusé à essayer de regarder qui peut encore améliorer son score dans les pilotes encore en activité.
Alonso.
Donc dans les vieux, on a Trulli et Webber. Bon, leur retroche, tous les deux ont gagné une fois pour une écurie, Trulli pour Renault, Webber pour Red Bull. Les deux, on peut se dire qu'ils vont, leur retraite est proche, donc ils devraient pas gagner dans d'autres écuries, c'est peu probable. Donc, moi, je les vois pas aller dans une autre écurie après, donc voilà. Schumi pourrait améliorer,
oui.
Forcément s'il gagne en 2010, oui. Pour Mercedes notamment.
Il pourrait.
Ouais. Barrichello qui a gagné avec Ferrari et Brown Grand Prix. On sait jamais, sur un coup de bol dans des circonstances particulières, il pourrait bien faire gagner Williams. On sait jamais.
Oui.
Dans ceux qui sont encore jeunes, Kovalainen, une victoire pour McLaren. Bon, pour l'instant, c'est pas demain la veille qu'il fera gagner Lotus, hein.
On sait jamais, un coup de bol.
On sait jamais.
Un acte terroriste ou un truc dans le genre, pourquoi pas.
Un séisme ou une attaque de météore. Ou...
Un tsunami. Godzilla qui arrive. Vivement le Grand Prix du Japon.
Massa, il a gagné que pour Ferrari, mais il est encore jeune, donc il aura sans doute une carrière après Ferrari, on lui souhaite de gagner également.
Raikkonen.
Kubica. Raikkonen, il est plus en F1. Hein.
Mais s'il revient avec Red Bull.
Peut-être. Kubica. Peut-être que cette année, il peut faire gagner Renault aussi, hein, on sait jamais, ou l'an prochain. Ensuite, on a dans les têtes d'affiche, on va dire, on a Hamilton, qui a gagné que pour McLaren. Mais si tu l'entends, il dit qu'il veut faire toute sa carrière chez McLaren, ouais. Donc peut-être que le compteur s'arrêtera là. Alonso, donc, qui a gagné chez Renault, McLaren et Ferrari. Pareil, si tu l'écoutes, il dit que Ferrari, ça sera sa dernière écurie.
Il y a toujours le si tu l'écoutes.
Voilà. Ouais. Et enfin, il y a quand même Vettel qui a déjà gagné Toro Rosso et Red Bull. Lui, ça fait aucun doute pour lui qu'il va y rejoindre un jour un top team, un McLaren.
Il l'a dit récemment, Ferrari. Lui a choisi entre McLaren et Ferrari, il aurait plutôt tendance à vouloir se tourner vers Ferrari.
Donc lui, c'est clair qu'il augmentera ce score. Voilà, c'était ma minute un peu expansive.
On passe désormais à la course et à notre classement.
Il y a encore à avoir 3 ou 4 ex-aequo.
Bah on s'en fout, on sait comment les régler maintenant.
Alors, en effet, il y a des ex-aequos.
Ah, tu vois.
Voilà. Ils sont ex-aequo à la 9e et 10e place.
Ah. Mais ils sont pas ex-aequo alors.
Bah, ils sont ex-aequo à la 9e place, si tu veux.
Voilà.
Mais il n'y a pas de 10e.
Bah, non, dans ce cas-là, non, il n'y a pas de 10e. Donc, sont ex-aequo à la 9e place, Barrichello et Weber.
Eh ben, ça me fait bien plaisir.
Qu'est-ce qu'il fout là, Weber?
Weber, classé 6e par Dino.
Non.
Et c'est tout. Mais comme il l'a foutu 6e, bah voilà.
Ça.
Vous allez quand même pas me faire croire que parce que je l'ai foutu 6e. Ah non, c'est moi qui l'ai mis au milieu.
Oui.
Tu sais ce que j'en pense. Tu sais ce que j'en pense, Dino.
Ah non, mais sérieusement, non mais. Je pensais que j'avais... je me disais merde, oh, je vais mal le noter et tout quand même. On va me dire que je suis un salaud. Et non, moi j'ai il y a eu des hauts débats, mais
Attends, il partait deuxième.
Mais ouais, mais quand même, il a mis un peu d'action. Il a participé avec les autres à mettre un peu d'action. C'était moins construit.
Oh oui, c'est vrai. Il est rentré dans le cul de
Hamilton. Non, il y avait pas que ça. Il a perdu sa place sur Massa. Il est parti la rechercher. Après, je l'ai mis que 6e. Hein.
Et tu veux dire que même aucun des auditeurs ne l'a retenu?
Alors, si, mais en fait, trop bas, en fait, juste en dessous, sur la moyenne auditeur, il se retrouve 12e.
Attendez, vous avez
vraiment pas très, mais vraiment pas très loin de la 10e place.
Vous l'avez pas mis, vous, Weber?
Non.
Non.
Eh ben, je suis content qu'il soit ex-aequo avec Barrichello. Je veux savoir combien est Barrichello. Je veux savoir combien il est au maximum, Barrichello.
Barrichello, moi, je l'ai mis 9e. Les auditeurs l'ont mis 9e.
Moi, je l'ai mis 5e.
Ah merde, putain, il aurait été devant. Donc oui, on garde ex-aequo.
Mais non, je l'ai mis 8e.
Eh ben, Weber, il aurait été devant. C'est dit, c'est Barrichello le 10e.
Niet.
De toute façon, tu ne peux rien nous dire.
M'en fous, Dino. C'est moi qui fais le classement.
Parce que, Dino, tu peux nous rappeler qui tu as mis en 8e place?
Ah putain, je sens que ça va m'énerver encore.
Ouais. Moi, je comprends même pas. Quand je l'ai lu, j'ai regardé deux fois le mail.
Ah oui, non mais oui, j'ai mis Digrassi, non mais.
Il a mis Digrassi, c'est le seul à avoir nommé Digrassi. Pourquoi? Je ne sais pas.
Non mais, vous vous souvenez pas de ce moment magnifique où Schumacher est en train de rouler, il est en train de doubler Digrassi et Digrassi se dédouble?
Oui, bah, et alors?
Eh ben, voilà. Moi, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient dit, ouais, super, adversaire, etc., il a résisté à Schumi. Eh ben, Digrassi, il a pas eu peur du Michael. Il y allait à fond, il s'est sorti les doigts du cul, il s'est retrouvé à côté de Michael, il s'est dit, c'est pas parce que c'est Michael, c'est pas parce que c'est Mercedes qui sont plus rapides que moi, je vais me le taper. Bon, d'accord, c'est sûr, juste derrière, il s'est fait cramer dans une courte ligne droite, mais c'est pas grave, il a tenté le truc.
Shinji, c'est le même qui était fou de Schumi avant?
Ah oui, non, mais moi, de toute façon, je le reconnais plus cette saison. Je sais pas, doit être possédé par un démon.
Y a personne qui a mis Digrassi?
Mais non!
Attendez, je suis seul à avoir mis Weber et Digrassi!
Weber, t'es pas le seul dans les.
Ouais, non, mais.
Dans les auditeurs, y en a? Mais sinon, oui, y'a que toi!
Non, parce que les auditeurs, ça compte pas, mais moi, je suis le seul et Digrassi, Digrassi, je suis le seul, même parmi les auditeurs, à l'avoir mis!
Eh, franchement, la prochaine fois, je mets Trulli, Kovalainen.
Attends, mais. Non, mais.
Je vais foutre le bordel.
Y a des auditeurs qui ont mis Shandok. Ou les HRT pour dire ouais, ils ont fini la course. Là on a quand même.
Bah oui, moi aussi.
Bah moi aussi.
Ouais, mais arrêtez là qu'on a quand même un mec qui s'est un petit peu sorti les doigts du cul avec sa voiture alors qu'il a une voiture de merde et il s'est doublé sur Michael Schumacher. Ah, je suis déçu, là. Ah, je vais vous le mettre premier dans 15 jours.
Ah, je suis... Si tu fais ça, je quitte l'émission.
Ah, je suis déçu, les mecs. Ah non, sérieux. Eh ben, genre... Alors là, en plus, je me disais du gracie. Au début, je l'ai mis 10e, puis je fais, oh non, 10e, ça mérite quand même plus. Donc, je vais le mettre 9e. Puis après, j'ai vu le 9e, je fais, oh non, je vais le mettre 8e. Allez hop, mets le 8e. Donc, j'ai mis du gracie 8e. Et je suis content, il est dans le classement.
Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus, sur la course de Weber?
Ah, parce que, on est encore sur Weber. Je croyais qu'on était
oui, là,
du gracie,
ouais.
Non, il y a rien à dire. Non, non.
Parce que Barrichello, on n'a pas parlé.
Eh ben, il est toujours là. Il veut finir par faire gagner Williams. Oui.
Il est toujours là, encore là, et il est toujours là.
Ils ont dit chez Williams, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un pilote qui faisait progresser la voiture comme ça.
Mais Williams, c'est arrête, c'est bon, c'est des mecs. Ils changent de discours à chaque fois qu'ils changent de pilote, c'est bon. S'ils ont perdu des champions du monde pour aller dans d'autres écuries, à peine que les mecs étaient titrés, c'est qu'il y a des raisons quand même. De toute façon, j'aime pas cette équipe alors. Puis j'aime pas Rubens alors.
Mais il était rouge avant, comme Schumi.
Ah oui, mais oui, mais Schumi, non, mais.
Ah non, il aime plus Schumi, alors.
Maintenant, tu comprends, hein. Maintenant, un pilote, quand il est rouge, je l'adore. J'adorais Barrichello, j'aime bien Barrichello sur sa période rouge. Sa période blanche et jaune et sa période blanche et bleue, j'en ai rien à faire.
Rassure-moi, là, quand je vois ton classement et tout, là, je suis inquiet. T'as mis Schumi dans le top 10?
Tu verras bien. J'ai voulu me rattraper la semaine dernière.
Alors, en 8e position, vite Antonio Liuzzi. Que Dino a mis 10e.
Attends. J'ai mis... Liuzzi, oui. Il est devant mon Di Grassi.
Bah oui.
Oui, bah oui.
Il est combien Di Grassi alors?
Bah il est 11e en fait.
Sur tout le classement, il est 11e.
Oui, mais t'es le seul à l'avoir mis.
Mais vous faites chier les... Mon Di Grassi va même pas... Mais il va faire un truc cette saison. Se dédoubler de Michael Schumacher. Il va jamais marquer de points. Et là, il pouvait marquer des points et vous le supprimez.
Oui.
Oui.
J'en ai marre, c'est pas possible.
Donc, Liuzzi, que j'ai mis 7e, que tu as mis 10e, Dino. Que Enzo a aussi mis 7e, comme la moyenne des auditeurs.
Ah, mais attends.
Quoi? Encore.
Di Grassi, vu qu'il n'y a pas de 10e, on peut peut-être le mettre 10e.
Mais non, il est 11e.
Mais oui, mais non, mais vu qu'on parle...
Non,
les mecs. Bah, il n'y a pas de 10e, c'est pas logique.
Ils sont 9e ex aequo, il n'y a jamais de 10e quand il y a des 9e ex aequo.
C'est Di Grassi là-haut, les mecs.
Non.
Mais non, mais Di Grassi quand même.
Non.
Non, mais les mecs, Di Grassi.
Non.
Mais sérieux, les mecs, soyez sympas.
Mais même pas en rêve.
Eh ben, dans ce cas-là, je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus rien si tu en stops.
Bon, sinon, Liuzzi. Non, Liuzzi, ça vous inspire pas.
Si, très belle course de Liuzzi, encore une fois.
Dino, mais... non, Dino, il veut plus parler.
Ah bah, ça nous fera des vacances.
Bon bah, il a décidé de bouder, hein. Donc, comme Dino a décidé de bouder, on va passer à la 7e place, détenue par Nico Rosberg.
Seulement?
Rosberg, alors, moi, je l'ai mis 8e.
Ça, c'est encore Dino qui l'a saqué, quoi.
Dino l'a mis 9e.
Ah bah voilà, quel enfoiré.
Et toi, tu l'as mis 6e. Bah, et oui. Les auditeurs aussi 6e. Donc voilà, ça fait une 7e place. Dino, tu boutes toujours?
Allez, on donne un point à Di Grassi.
Yes!
Non, je déconne.
Pas grave, je continuerai.
Donc Enzo, quelque chose à dire sur la course de Rosberg?
Bah encore une fois, devant vous savez qui?
Devant on sait qui, oui.
Mais bon. Après, il était dans le bon wagon quand même. Qui sait? Attends, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Il nous fait du boudin, mais il est transparent, Nico. Oh là là.
Mais...
Non, mais soit tu parles.
Soit
tu fermes ta gueule, mais jusqu'au bout, quoi.
Ça a marqué, je fais la révolte silencieuse, c'est pour ça.
Non, mais Dino, c'est plus drôle.
Eh ben, on donne des points à Di Grassi.
Non,
mais, non. Non, mais sérieux, les mecs, il aura que ça.
Mais on s'en fout.
Il marquera jamais le point, les mecs. Et j'ai piqué, c'est un petit débutant, là. Il s'est déchiré sur Michael Schumacher.
Eh ben, tant pis pour lui. Il avait qu'à faire moins, mieux.
Il peut pas faire mieux. Arrêtez, les mecs. Il peut pas faire mieux avec les veaux qu'ils ont. Ils peuvent pas faire mieux, les mecs. On va jamais les mettre dans les points, là.
Mais si, ça arrivera.
Bon, je suspends ma révolution silencieuse, mais, à titre temporaire.
Alors, Dino, tu nous as dit que Rosberg était transparent.
Rosberg, il a été bon pendant la course. Mais il s'est retrouvé entre deux paquets où il a eu rien à faire, quoi.
Bah oui, mais ça, il dit pas rien.
Ah non, mais on est bien d'accord, ça, il dit pas rien. Mais s'il a rien fait Je vais pas dire qu'il est, que c'est bien ce qu'il a fait. Il a rien fait. À part, finir, je sais plus, il finit cinquième. À part finir cinquième, il a rien fait d'autre pendant la,
bah, il a, alors, il a quand même suivi le rythme des...
Oui, mais les mecs que j'ai mis devant, ce sont soit des mecs qui ont fini devant en course, soit des mecs comme Hamilton et Weber qui ont montré un peu plus de choses, qui ont un peu plus joué du volant pendant la course, en bien ou en mal, mais qui ont animé la course. Voilà, Rosberg fait une belle course, mais pour moi, ça n'a pas été un animateur de la course, et honnêtement, je ne l'ai pas vu.
C'est ton choix.
Très bien. Alors, à la...
Et Digrassi, il a plus animé, d'après toi.
Mais oui, parce que lui, au moins, Digrassi, on l'a vu une fois en caméra embarquée sur Schumi, on l'a vu en train de se dédoubler de Schumi. Sérieusement, donc, regardez les vidéos, c'est pour une petite équipe, c'est pas contre Michael, mais pour Digrassi, honnêtement, ce mec-là, moi, ce qui m'a plu dans ce truc-là, c'est que ce mec-là, il a une voiture qui rend facilement 3-4 secondes à la Mercedes. Il est sous la pluie. C'est un débutant, c'est son deuxième Grand Prix. À côté de lui, il a le recordman statistique de la F1 et un mec dont on peut redouter. On s'attend à ce qu'un Vettel, on s'attend à ce qu'un Hamilton aille faire la nique à Michael Schumacher comme ça. Que ce soit Digrassi sur sa modeste Virgin qui se sorte et qui se dise voilà dans ce virage-là, il me double, mais c'est pas grave, il a le temps de réagir, d'essayer de se dédoubler. Même s'il se fait griller après, moi je dis rien que pour le geste, moi c'est ce que j'appelle un pilote. Il lâche rien, il se donne à fond. Et je trouve dommage que parce que c'est sur Virgin et que c'est là qu'on le voit moi, je trouve dommage qu'on lui donne pas des points. Maintenant j'accepte la règle et tout, je ferai plus de révolution, mais voilà, je trouve ça con.
Oui, non, mais là t'es en train de nous dire que ça dépend, tout ça, ça dépend du caméraman, quoi, des choix du réalisateur.
Mais bien évidemment.
Parce que ça se trouve, il s'est passé plein d'autres trucs comme ça. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres animations comme ça qu'on n'a pas vu.
Tout à fait d'accord, voilà. Mais on n'est pas sur les circuits, on n'est pas, y a personne qui peut se vanter d'avoir un point de vue 100% objectif sur tous les pilotes, sur toute la course.
Si, moi.
Non, je suis désolé, t'as pas toutes les vues embarquées, que ce soit un pilote, lui, il va voir que sa course à lui, que ce soit les mecs dans une écurie, ils vont voir que la course de leur écurie, le réalisateur va voir que ce qui est un peu piquant. Justement, le réalisateur nous montre des trucs un peu piquants, ça faisait partie des trucs un peu piquants. Je dis pas qu'il y a rien d'autre qui a été montré, je dis pas que Rosberg, il a rien fait. Je dis que Rosberg, le réalisateur, l'a pas montré parce qu'il a rien fait d'extraordinaire. Il s'est pas retrouvé en situation de dépasser un mec avec panache comme l'ont fait Weber ou Hamilton, qu'il a pas fait d'accident, qu'il a rien fait. Je le mets devant, je le mets dans les points parce qu'il le mérite, parce que ça serait injuste qu'il y soit pas. Je vais pas non plus le mettre au même niveau que le classement, juste pour dire, bah voilà, il a fini cinquième, faut que je lui mette une cinquième place.
Alors, passons à la sixième place, qui est détenue par Lewis Hamilton. Alors moi, personnellement, je l'ai mis cinquième. Dino, tu l'as carrément mis troisième.
Mais oui.
Et encore.
Et Enzo, tu l'as mis neuvième.
Oh.
Et au fait, auditeur, huitième.
Non, mais les auditeurs, ça compte pas, ils sont super anti-Hamilton.
Alors, moi, je trouve que il a pas montré des super trucs. Il a été incapable de doubler en fin de course, alors qu'il avait tout pour doubler.
Après, il y a le choix de stratégie, hein, qui a pas été...
Alors ça, je reviendrai pas là-dessus.
Faire un deuxième arrêt...
Ah. Je reviendrai pas là-dessus, mais...
On doit avoir le même drive.
On en reparlera.
Il va y avoir bagarre pour les drive.
C'est moi qui parle en premier.
Je m'en fous, j'ai de la réserve.
Dino, quelque chose à dire sur Hamilton?
Moi, je suis pas d'accord.
Tu l'as quand même mis troisième.
Honnêtement, moi, j'ai failli le mettre premier.
Non.
Mais ouais.
Oh, quand même pas.
Non, mais sérieusement, regardez la course qu'il fait, quoi. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu la même course. C'est lui qui a animé la plus grande partie de la course. Certes, il n'arrive pas à doubler Alonso, faute de la stratégie, etc. Mais c'est aussi parce que devant, c'est Alonso, que Alonso a superbement bien joué le coup. Et moi, Alonso, je l'ai bien placé par rapport à Hamilton, justement parce qu'il a super bien joué le coup avec Hamilton. Mais quand même, Hamilton, il a fait des dépassements.
Il a dépassé qui ?
Bah, j'ai plus de nom en tête, mais il a fait de l'action en course, je suis désolé, moi j'ai beaucoup vu Hamilton, et il y avait une impression en général que derrière Hamilton avait fait une très bonne course, il pouvait gagner s'il avait, par rapport à sa stratégie, s'il avait eu la même stratégie que les autres, je pense qu'il était au taquet, qu'il aurait pu y aller.
Oh, il aurait été mieux classé.
Ah oui, non mais même moi, je dis directement, il aurait sans doute gagné. En tout cas, comme il a dit dans la presse, il aurait sans doute fait premier, deuxième avec Button. Dans quel ordre, ça reste à voir.
Ouais.
Mais moi, j'ai adoré sa course. Alors, autant j'ai envie, sur ce week-end, de lui donner des tartes sur d'autres trucs, mais autant je trouve sur sa course, il a fait ce qu'on attend d'un pilote, c'est-à-dire il a mis du panache, il est allé chercher ce qu'il fallait chercher, il a été rapide, il a été régulier. Bon, voilà, moi, j'ai aucun reproche à lui faire. Pour une fois, profitez-en.
Nous profitons.
Alors, ensuite, à la cinquième place...
Tu vas t'en pire.
T'es trop mauvais. Un pilote Ferrari, c'est Massa. Moi, je l'ai mis sixième. Toi, Dino, tu l'as mis septième. Enzo l'a mis cinquième, comme la moyenne auditeur. Que dire de Massa?
Bah, il a fait un beau départ.
Non, Alonso a foiré son départ. Button...
Il a fait un beau départ quand même.
Oui.
Oui.
Faut pas dire qu'il a... Il se retrouve quand même deuxième.
Oui, oui, non, mais il perd vite sa place.
Certes.
Moi, honnêtement, je l'ai mis d'ailleurs sur le Twitter du SAV. Visuellement, sur l'ensemble de la course, il y a un contraste flagrant au sein des deux pilotes de la Scuderia. Alors, est-ce que c'est les conditions? Alors, on sait que c'est un circuit qu'il affectionne pas trop. Il l'avait dit, hein, c'est pas son circuit. Il y a jamais vraiment réussi. Soit il tankait sa voiture, soit il fonctionnait pas très bien. On se rappelle, je crois, il y a l'année dernière, ou il y a deux ans, où il finit très loin en abandonnant dans les derniers tours ou je sais plus quoi. Voilà, donc il a jamais vraiment réussi d'abord. En plus, il pleut, il est pas à l'aise. Mais moi, ce que je suis déçu, c'est que par rapport, par exemple, au Brésil il y a deux ans, où il avait montré sous la pluie, ce qui était une vraie surprise, il avait montré qu'il en avait dans le boyau et que quand il fallait agir sous la pluie, il était bon. Là, moi, j'ai trouvé inexistant. C'est pour ça que je le mets septième, parce que il a été bon, il a su résister. Mais je suis sûr que si au sein de la Scuderia on lui avait dit, écoute, là, t'es pas assez rapide, tu laisses passer Fernando, ça l'aurait tué moralement. Je pense que c'est aussi pour ça que Ferrari l'a pas fait, parce qu'il savait très bien que vu la course qu'était en train de faire Massa, il fait une bonne course. Mais que s'il lui disait de laisser passer Fernando, alors le pauvre Felipe, déjà qu'il n'est pas confiant sur ce circuit-là, juste derrière, tu demandes de dépasser par Fernando, son week-end était fini. Hein.
Et toi, Enzo?
Bah, moi, j'aime bien son départ. Après, c'est vrai qu'il fait quelques erreurs. Clairement, on voit qu'il est quand même, un peu à la rue derrière. Du moins devant pour le coup Alonso. C'est je sais plus quel, c'est Brundle je crois ou Blundell qui commente la télé anglaise. Blundell qui a dit qu'il comprend pas pourquoi la Scuderia n'a pas demandé à faire passer à Alonso. Je suis assez d'accord.
Mais c'est ce que j'ai dit sur Twitter du SAV. J'ai dit pareil.
Je pense qu'Alonso était plus rapide et il faut accepter des fois.
C'est la stratégie d'équipe aussi.
Oui,
la stratégie d'équipe, c'est pas juste dire, voilà, les deux pilotes, on leur demande pas de se dépasser, c'est demander à un pilote qui est moins performant sur une course de dire, écoute, là, pour ce coup-là, surtout que Fernando, avec la voiture qu'il a, il va finir troisième parce qu'il passe Massa, mais en plus, derrière, faut quand même pas oublier, c'est Kubica, ses pneus sont pas top, et que Kubica, il peut aller le taper, il ira sans doute pas taper Button, mais il peut au moins finir deuxième. Et on voit cette année avec le Bahreïn, une deuxième place et une quatrième place, c'est pas pareil. Et honnêtement, le calcul de la Ferrari est pas très, le calcul de la Scuderia est pas très bon.
Surtout qu'entre la troisième et la quatrième, il y a que trois points. C'est pas le plus gros des écarts.
Non, c'est clair.
Voilà.
J'ai un souvenir quand même. Je crois que c'était au Japon, de mémoire, en 91, où tu avais Berger qui était sur McLaren et poursuivi par Prost et Jean Alesi. Les deux étaient sur Ferrari. J'ai souvenir que la Scuderia avait et Prost l'avait accepté, avait laissé passer Alesi parce qu'il était plus rapide et parce que Alesi, plus fougueux, avait attaqué Berger, avait trouvé l'ouverture et Prost avait pu en profiter également derrière quoi. Et je pense que il faut laisser faire ce genre de truc des fois quoi.
Mais est-ce que c'est pas non plus la réaction opposée, tout le monde a dit avec la première victoire d'Alonso, il est en train de conquérir le public tifosi. Est-ce que c'est pas non plus une manifestation de la part de la Scuderia que le chouchou ça reste quand même pour le moment encore Massa et qu'on le préserve encore un peu, même si c'est évident, enfin sur cette course là c'est évident que Massa et Alonso, pour le moment, il n'y a pas bagarre.
Puis peut-être une peur des accusés. Enfin, même si là, c'était complètement justifié,
Ils l'ont quand même fait voilà, des fois en disant au mec à la radio, vas-y passe, laisse passer Michael, et puis ça les gênait pas, donc là je pense que ça les gêne pas non plus.
Alors, en quatrième position, c'est Sébastien Vettel, que j'ai mis quatrième, que Dino a mis deuxième, Kenzo a mis quatrième aussi, comme le vote des auditeurs.
Je vais pas dire il aurait dû gagner, mais il aurait pu gagner. Il a été magistral à la fois en qualif et en course.
Ouais, tout à fait.
Premier virage, il a déjà, pendant que les autres se cartonnent derrière, il a déjà 20 mètres d'avance. Voilà, il est sur un train de sénateur. La Red Bull est une voiture extrêmement performante. Il y a déjà des polémiques comme quoi ça sera peut-être pas légal. Mais lui, il maîtrise totalement ce qu'il fait. Et voilà, il est parfait dans ce qu'il fait. Il n'y a rien à lui reprocher. Lui, j'ai rien envie de lui reprocher. Et ça
il peut
même mal de voir que lui, il a que 10 points depuis le début de saison et qu'Alonso en a 33. C'est un mec qui devrait avoir 50 points à l'heure où on parle et pas 10. Mm. Et ça, c'est exactement. La faute entièrement de Red Bull et d'Adrian Newey.
J'ai une question. Parce que je me demandais, est-ce qu'il n'est pas un petit peu responsable de ce qui arrive à la Red Bull? On sait qu'il y a des pilotes qui peuvent être violents avec la mécanique. Est-ce que Vettel, finalement, serait pas de cela?
C'est vrai que Weber a moins de soucis.
C'est une question ouverte. Hein,
Mais justement, est-ce que c'est pas... on peut aussi se demander, on sait que généralement, ces voitures-là sont assez fragiles. On avait la même... je me rappelle, à l'époque de McLaren, on avait le même débat sur Kimi Raikkonen. Est-ce que Kimi Raikkonen, dans son style, est pas trop... à aller trop loin avec la voiture et au final il provoque des casses mécaniques. On a vu Kimi Raikkonen chez Ferrari, au niveau casse mécanique, Kimi chez Ferrari, ça n'a pas non plus été un destructeur de voiture. Il a été plutôt bon, il est souvent vu la ligne d'arrivée.
Par contre, chez Citroën,
Et il l'avait prévenu, hein. Il l'avait dit. Hein.
Mais voilà, je pense que c'est aussi lié au fait de la voiture. Faut aussi avoir une... je pense pas que Vettel il massacre plus sa voiture que les autres. Je pense que Hamilton et Alonso quand ils font ce qu'il faut, je pense que ça y va, mais je pense que Newey va tellement à la limite dans ce qu'il fait que la voiture tient debout, mais au moindre coup de vent, il y a un truc qui pète quoi.
Comme tu disais, terrible pour Vettel hein, parce qu'il pourrait avoir 50 points.
Ah ouais, non mais c'est puis là Niki Lauda l'a dit pour Red Bull, ils peuvent déjà dire non au championnat.
Faut pas abuser.
Faut pas abuser, mais le scénario de l'an dernier se répète et en face on a quand même des écuries, et là pas une seule mais des écuries qui prennent peu à peu l'ascendant. On a quand même des écuries qui prennent l'avantage au point. Il va falloir quand même que Red Bull se réveille vite, et c'est pas le genre de problème.
On sait que c'est dur de rattraper un écart.
Ce genre de problème, il y a une dynamique à l'intérieur. On commence quand même à sentir. Moi j'avais dit, hein, c'est important cette saison parce que faut garder Vettel. C'est pas gagné, et on a quand même là en deux jours Vettel qui dit que ça lui casse les couilles, et juste derrière qui dans une déclaration évoque son futur, son potentiel à la demande des journalistes, mais son potentiel futur soit chez McLaren, soit chez Ferrari, en disant qu'il a une petite préférence pour Ferrari. Donc c'est pas un climat aussi favorable que ça. L'an dernier, par exemple, ce qui était favorable à Button, c'est qu'il a pris de l'avance et qu'il n'y avait pas eu du tout de polémique sur le début de saison. Lui, il faisait son chemin, etc. Ça a été aussi la force de Kimi Raikkonen en 2007. Là, pour le moment, c'est une équipe qui est en train de douter. Et le doute peut créer des écarts là où, théoriquement, sur le papier, il n'y en aurait pas.
On arrive au podium.
Yes.
Alors, en troisième place, l'autre pilote Ferrari, Fernando Alonso. Tu l'as mis quatrième. Moi, je l'ai mis troisième.
Moi, je pense que j'ai le podium. Quatrième.
Enzo, tu l'as mis troisième. Et moyen auditeur aussi, troisième.
Moi, je pense que j'ai le podium.
Donc, Alonso, il y a ce départ, quoi.
C'est son départ qui le foire, et la piste de Button au premier virage qui l'envoie en toupie sur la pluie pour rien faire, et ça lui ruine sa course. Heureusement, c'est Alonso et il s'est sauvé les...
Ah oui, il fait quand même une belle remontée.
C'est clair.
Mais c'est drôle, c'est parce que autant l'argument l'année dernière d'Enzo, ouais mais il a jamais le truc, etc. Autant ça me gonflait, autant là cette année, quand je le vois en rouge, non mais sérieux, c'est bizarre, parce que quand je le vois en rouge, je me dis ouais mais quand même il a jamais rien quoi. Donc voilà, je me découvre vraiment tifosi à fond, c'est étonnant. Vivement que Rosberg vienne chez Ferrari.
Ah bah non, il peut pas, c'est Vettel qui va prendre la place.
Ah bah non, mais alors Vettel, la porte est ouverte, je suis même prêt à virer Alonso, s'il faut.
Non.
Ah oui, non, sérieux.
Ils sont plus ambitieux que ça, ça.
Non, mais
c'est que ça, chez Ferrari.
On peut virer Massa, ça me dérange pas, mais...
Ah, voilà.
Je serais même prêt à sacrifier les deux, tu vois. Mon petit cœur, hein, moi, il serait prêt à faire les deux.
Enzo, quelque chose à rajouter?
Bah, non seulement t'as sa remontée, que tu peux comparer à celle faite par un septuple champion du monde qui est pas aussi belle quand même. T'as non seulement cette remontée, et puis t'as la résistance.
Je veux dire, la dernière course de Schumacher.
Ah non, je veux dire, comparé par rapport à la course de Schumacher pour celle-là, quoi.
Ah oui,
ah ouais, d'accord.
Elle n'est pas terrible, quoi.
Non, c'est moi, je pense que c'est comparé, en fait, au Grand Prix du Brésil 2006.
Non. Donc, il y a déjà ça, mais après, il y a sa résistance face à Hamilton et Weber, et surtout, c'est un fourbe, il est malin, quoi. Je veux dire, retarder son freinage comme il fait pour pas que Hamilton le passe et au final il met les deux au tapis, c'est excellent. Je veux dire, il est très fort, il est très très fort.
Mais moi, ça m'a rappelé les deux grands.
Pour moi, il est provoqué cet accident par.
Ah bah oui, mais il a été.
Il est provoqué par Alonso. Ouais, il est superbement joué.
Je crois même que je crois que c'est un pilote qui l'a dit. C'est bien joué. Voilà, c'est bien joué. C'est être un pilote de F1, c'est aussi savoir pousser l'autre à l'erreur. Et là, il a poussé à la fois Hamilton et Weber à l'erreur. Il s'est dit, il a vu les deux dans le rétro, il s'est dit, je vais pousser Hamilton à un petit peu me déborder et un petit peu se précipiter. Weber va pas le sentir venir, et comme Weber, il regarde très peu la route, il va le taper, ils vont tous les deux sortir. Je suis sûr qu'il je suis d'accord avec Enzo, il a anticipé.
Voilà, ça c'est certain, quoi.
Alors, en deuxième place.
Il en reste plus que deux.
Faut avouer, un pilote dont on s'attendait pas spécialement, mais déjà, lors du premier Grand Prix, il nous avait surpris.
Ah,
c'est
chouette.
C'est le polonais Robert Kubica, que j'ai mis deuxième, que Enzo a mis deuxième.
Les
auditeurs ont mis deuxième. Et toi, Dino, tu ne l'as mis que cinquième, entre guillemets.
J'ai mis Button premier, et en dehors de plein de trucs que j'expliquerai sur Button, j'aurais mis personnellement Button derrière Hamilton, Alonso, et je sais plus qui j'ai mis en 4. Bah, c'est Alonso. Donc j'aurais mis personnellement Button derrière Alonso, et j'ai mis qui en 2? J'ai mis Vettel.
Vettel.
Donc j'aurais mis Button et Kubica en 4e, donc Kubica en 5e parce qu'il était derrière. Les deux pilotes ont été opportunistes, ils ont su gérer les pneus. J'ai préféré la performance de Button, et voilà, mais la course de Kubica est magnifique, et je suis super content pour lui et pour Renault aussi.
Rappelons que l'objectif de la saison, c'était un podium, mais en fin de saison.
C'est bien, tu as lu mon Twitter.
C'est vrai. Et est-ce que cette Renault, finalement, elle peut gagner cette année?
Non.
Faut voir. Ce qui est intéressant, c'est comme le dit Jean-Louis Moncey pendant les retransmissions, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que c'est une vraie équipe de professionnels. On était très inquiet de voir Boullier monter. C'est un ingénieur, apparemment il connaît son truc et il mène bien son équipe. Et j'ai davantage l'impression de voir vraiment Renault, alors qu'on sait très bien que c'est que 25%, Renault c'est plus que 25% de son écurie, que ces dernières années. Voilà, je vois une vraie équipe Renault. Et la livrée et tout, même si j'ai pas connu l'époque, ça me fait davantage penser à l'époque des années 80 et de la régie Renault qu'à l'époque des années 2000. Donc pourquoi pas, ça peut être une dynamique assez intéressante.
Ouais.
Puis ils ont un bon pilote et un pas mauvais second, apparemment.
Qui l'eût cru?
Mais si ça serait bien.
Pareil.
Ça serait bien que Petrov finisse un peu les courses, quand même.
C'est vrai que Petrov, c'est pareil. On s'attendait pas forcément à grand chose et pour l'instant, il montre des choses intéressantes.
D'ailleurs, il est pas dans le classement. Je suis surpris.
Non, c'est vrai.
Schumi non plus.
Oui,
oui. Schumi, à part le vote auditeur en 10e place, c'est tout. Voilà.
Ah, il a quand même eu un point, Schumi.
Voilà.
Eh ben, c'est même pas assez pour être derrière Di Grassi.
Eh ben, sincèrement. En étant fan de Schumi, je ne comprends pas qu'on lui ait mis ça.
C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il ait fait une course grandiose. Hein. Bah, il est resté surtout coincé derrière Alguersuari
ouais, mais longtemps. C'est des trucs aussi, enfin, je sais pas. Parce que quand même, bon, c'est Alguersuari devant, c'est la Toro Rosso, quand même techniquement. Il doit pas passer autant de temps que ça derrière. Est-ce qu'il était pas en train de tester des réglages et tout
Il est une RS Bull, tu veux dire?
Peut-être, c'est pas con. Bah non, c'est tout. Merde.
Pour leur propre c'est plus la même.
C'est moins bien.
Eh oui. Et donc, en première place, celui qui a été mis premier par moi, Dino, Enzo, Fab07, Sato Kamikaze, Qui d'autre encore? Bertaillot, Bilot. Il a jamais été au-delà de la quatrième place. C'est Button.
Jensen.
Déjà, j'ai envie de dire 1 à 0.
Oui, oui.
Par rapport à son équipier. Parce que dès l'émission de pré-saison, on avait dit « Et si ?» Alors, c'est vrai que pour l'instant, il y a eu que deux courses. Mais bah, pour l'instant, il est devant.
Ouais. Même s'il le dit, lui, il faut pas du tout s'attendre à ce qu'il réédite l'exploit dans les prochaines courses.
Bah, c'est vrai que c'est quand même un formidable coup de poker qu'il a fait.
Ouais, mais alors justement, je pense que apparemment Enzo va en revenir, mais ce qui m'épate et c'est pourquoi je l'ai mis premier alors que je vous l'ai dit, j'aurais pu le mettre quatrième. Ce qui m'épate, c'est que là où on a son coéquipier qui dit oui la stratégie était merdique, etc., qui accuse son équipe alors c'est lui qui a le volant, il a qu'à pas rentrer. Oui. Là, on sait, tout le monde l'a reconnu chez McLaren, c'est le choix de Button. Button, il a dit on va prendre les tendres, les slicks. Il a pris les tendres et les slicks. Tout le monde l'a écouté. Et on lui a demandé en course, est-ce que tu t'arrêtes? Il a dit non, les pneus, je les sens bien, je continue. En comparaison, Hamilton a dit non, les pneus, je les sens bien, j'aimerais continuer. On a dit non, ça serait mieux que tu rentres. Et ben il est rentré. Button n'est pas rentré.
Il n'a pas l'expérience de Button, donc, faut pas l'oublier. Hein.
Voilà, enfin c'est un défaut d'expérience. Est-ce que c'est aussi parce que peut-être il se sent plus libre, contrairement à Hamilton qui peut-être pense qu'il doit tout à l'équipe, donc il doit peut-être respecter un peu plus les décisions de l'équipe. En tout cas, Button, lui, il s'est dit non. Pour moi, il a vraiment agi en champion du monde. Et quand je vois les déclarations d'Hamilton, j'ai pas l'impression qu'Hamilton c'est un champion du monde. Je me dis c'est encore un débutant, c'est un gamin qui commence. Il a peur d'aller.
C'est un enfant gâté.
Voilà.
Enzo?
Complètement. Je partage l'analyse de Dino. Je veux dire, il a fait vraiment une superbe course. Bon, Hamilton, effectivement, on en reparlera tout à l'heure. Lui, il a agi en enfant gâté, effectivement, et il s'attend à ce que l'équipe travaille pour lui. Là, Button, lui, a travaillé et a fait ce qu'il avait à faire, quoi.
Et il a réussi son pari, en plus.
Et il a réussi son pari.
Mais c'est peut-être sa chance justement pour prendre l'ascendant sur Button, puisqu'on a dans l'idée que l'équipe est pour Hamilton, qu'Hamilton est accroché à l'équipe. C'est peut-être justement en n'étant pas contre l'équipe, mais en jouant peut-être plus le franc-tireur, le pari, avec toute son expérience qu'il a accumulée. Et puis il faut pas oublier qu'il a cette expérience maintenant de champion du monde. Et ouais. C'est quelque chose. C'est pas que une série de victoires.
Et il a gagné son pari, enfin, même si, attention, c'est qu'un écran de fumée, et puis faudra voir sur la suite, parce qu'il a quand même, faut quand même dire, avant de passer sa stratégie de pneus, il a quand même été humilié par Hamilton en se faisant dépasser, par Lewis. Et voilà, moi, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est ça qui me donne envie de le soutenir cette année, Button. Il est allé au challenge, quoi. Il a dit, voilà, il y a aucun intérêt à ce que je reste chez Mercedes où je vais être coucouné, je vais aller dans le pire endroit, là où personne veut me voir, ouais. Je vais y aller, je vais essayer de m'imposer.
Complètement.
Et, il s'y impose pas encore, mais en tout cas, il restera dans l'histoire comme ayant gagné avant son coéquipier, pourtant qui était favori. Ça restera une grande histoire.
Très belle image aussi, quand il a gagné, et comme quoi c'est vraiment quelqu'un qui est apprécié dans le paddock. Je sais pas si vous avez vu, mais bon, évidemment, il a été salué par les membres de l'équipe McLaren, mais aussi ceux de Renault et de Ferrari. Ouais. Ça, c'est toujours très sympa à voir.
Bah, on avait vu ça, pour Kimi Raikkonen, je crois aussi. Non, pas physique est là.
Oui.
Oui.
Voilà, ça fait partie des pilotes. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est un peu l'eau et le feu chez McLaren. Lewis, on le voit nous sur le blog, il est pas forcément très populaire, il est un peu antipathique. Alors que Button, même si son pilotage ne nous étonne pas tous, on l'aime tous un peu, quoi. Il y en a qui l'adorent, je pense qu'il y a personne qui dit oh non, Button, c'est un con, etc.
Oui. Alors, au classement du SAV. Nous avons Vettel avec 37 points, Alonso avec 33, après leurs deux bonnes courses. Vettel, on voit, on compense un peu en quelque sorte ses déboires.
Ouais.
Et Massa et Button à égalité avec 25 points. Et on notera Kubica 24 points. Chez le classement constructeur
du SAV. On devrait faire le classement de la F1 quand même.
Mais on va le faire après.
Non mais nous, on devrait faire le classement de la F1. On devrait nous demander à chaque fois et officialiser le classement du SAV.
Carrément. Dans le classement de constructeurs du SAV, Ferrari est toujours devant avec 58 points, devant Red Bull, 39 points, et McLaren qui profite bien de l'effet Button avec 37 points, suivi de Renault avec 32 quand même.
Ouais.
Alors si on part maintenant sur les classements, les vrais classements FIA, hein, on va juste donner les trois premiers. Donc Fernando Alonso est premier avec 37 points.
Il a battu son record l'an dernier.
Felipe Massa, 33 points. Je me demande s'il n'a pas marqué plus de points lui aussi que l'an dernier.
Je crois que c'est le nombre exact de points de l'an dernier.
Et Jenson Button, 31 points.
Ah, ça c'est moi.
Chez les constructeurs, Ferrari, alors là, il y a encore plus devant, avec 70 points, devant McLaren Mercedes, 54, et Mercedes, qui est quand même troisième, mais déjà à 29 points.
Ouais.
Donc, déjà, gros écart.
C'est vrai.
Alors maintenant, passons au fait marquant de la course. Alors, revenons sur le site SAV pour le résultat du sondage. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Bahreïn 2010? Est arrivé dernier avec 4 votes, mais je suis certain 4 vrais votes.
Ça veut dire.
Non, quoi. J'ai vérifié, Enzo n'a pas voté deux fois. En tout cas, Lotus. Son nom n'apparaît pas deux fois. Après les adresses IP, je promets rien, mais le nom. Je défends mon ami Enzo là sur ce coup-là.
Merci.
Mais de rien, Enzo.
Et tu peux. Et Lotus. Tu peux.
Lotus, seul des nouvelles écuries, a rallié l'arrivée. En deuxième place, le dépassement en patron d'Alonso sur Massa. 20% avec 5 votes. Et alors, largement devant.
Attends,
avec
attends.
2 tiers des votes.
Attends, je savoure.
Vas-y. 64%, 16 votes. Le problème mécanique de Sébastien Vettel. J'ai fini dernier donc.
Oui, l'honneur aux dames.
Je commence. Oh. C'est donc, je vais choisir le pari de Button, le pari de mettre des slicks. Donc,
de mettre des slips?
Le pari de mettre des slicks. Ensuite, Enzo.
La remontée de Alonso.
Oh putain, j'ai perdu là-dessus. Bah, je vais mettre l'accident au départ qui dynamite la course, quoi.
Namite.
Ça fait deux fois que tu me l'as fait, ça, là, Enzo.
Oui, mais la première fois, vous n'avez pas réagi.
Non, mais j'ai réagi, mais j'ai pas osé couper. C'est chaud, cette semaine, je trouve.
C'est intéressant. Et tout de suite, on passe au drive-through.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-through of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, qui c'est qui veut commencer?
Moi.
Ah, vas-y, commence.
Vas-y, Enzo.
Je soutiens.
Eh ben, moi, mon drive-thru, c'est pour Hamilton, qui a joué les mauvais perdants, en critiquant la stratégie de son équipe, mais surtout qui devait avoir franchement les boules de s'être fait battre par Button. Voilà, c'est son attitude que j'ai trouvée après course, hein, qui a critiqué la stratégie de son écurie, à dire que ils auraient dû faire un 2, mais je pense qu'il avait les boules sévères, quoi.
Dino, t'en as un?
J'en ai même 3, moi, s'il faut.
Voilà, attends, je vais faire le mien avant. Non, ça serait pour Bridgestone. Parce que quand même, alors je sais pas, peut-être que c'est une question de traduction, vous savez, entre l'anglais et le japonais. Hein. Puisque faut rappeler qu'il y a deux, type de pneus d'écart. Donc, ça veut dire qu'un pneu tendre, à l'heure actuelle, c'est soit un super tendre, soit un tendre. On est d'accord? Et on a quand même eu, alors c'est vrai qu'il pleuvait, c'est vrai que les conditions de piste étaient particulières, on a quand même eu des pneus tendres qui ont tenu 250 km. Alors, quand on sait que les pneus, ça va être quelque chose d'important, que c'est réclamé depuis une semaine, mais ça fait déjà de longs mois qu'on réclame qu'il y ait beaucoup plus d'écart entre les spécifications de pneus. C'est extrêmement surprenant, bizarre. Enfin, des pneus tendres ne devraient pas tenir 250 bornes,
mais,
même sous la pluie.
Mais je dirais même que quand on se rappelle il y a quelques années quand il y avait eu la règle où il fallait que les pneus tiennent toute la course. Bridgestone avait dit qu'ils étaient pas capables de faire des pneus plus performants, alors que là on voit si les temps sont, sont capables de tenir 52 tours. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ce que vont tenir les pneus ultra durs, quoi.
Attention, on est en slick là.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Mmh. Oui.
Effectivement. Mmh. Dans les modifications qui étaient proposées, nous-mêmes on avait proposé la dernière fois, il suffirait juste par exemple pas de passer au temps, mais de passer au dur, soit les super durs, soit les durs tout simples, et dire voilà, vous prenez les durs pour toute la course et basta. Et on arrête de se faire chier avec les autres types de pneus et voilà. Ou alors on revient à des mélanges un peu plus tendres.
Parce que là, les pneus durs, ils auraient tenu toute la course, hein, sans problème. Donc voilà, c'était mon drive. Alors, lequel tu vas choisir, Dino ?
Alors, je vais vous donner les trois, puis c'est vous qui allez choisir. Alors, bon, vous allez un peu deviner, vous allez voir sur lequel vous voulez m'entendre. Vous allez choisir entre Michael Schumacher, entre... J'ai écrit Renault, mais ça serait plutôt les différents sites d'information, et Hamilton.
Bon, on a déjà eu Hamilton, donc on, peut, dire Schumi.
Alors, Schumi,
on n'en a pas beaucoup parlé.
Schumi, c'est juste pour ce qui s'est passé après la qualification, quand il est allé pleurer que Alonso et Hamilton avaient bloqué en course. Je suis fan de Michael Schumacher, je le reste encore, même si... Et je me rappelle, à une époque, avoir défendu contre vents et marées, et Shinji sera témoin, sur le blog de Lionel Froissart, que non, Michael Schumacher ne s'était pas garé volontairement à la rascasse à Monaco.
À toi aussi.
Il a fallu que je lui montre le mouvement du volant.
Oui, non, mais
pour lui montrer que c'était pas logique.
Il a fallu 2 jours de conviction intégrale à Shinji pour me convaincre et voilà. Et je trouve un petit peu ridicule, surtout connaissant tout le monde connaît la réputation de Schumacher, qui était un pilote. C'est quand même à cause de lui qu'on a fixé la règle comme quoi, au départ, tu changes une fois ta ligne, mais pas deux. Et c'est quand même un petit peu stupide, et c'est aussi peut-être révélateur de son état d'esprit. Il est pas en confiance, etc. Et c'est peut-être justement ce qui est alarmant pour Schumi, c'est de le voir aller faire la pleureuse. Encore qu'il ait se disputer avec Alonso en disant ouais, franchement là tu m'as bloqué, t'es dégueulasse, t'es qu'un gros con. Bon, à la limite ça reste dans son style, voilà. Mais de là à aller se plaindre jusqu'au commissaire de la FIA venant de sa part, c'est ridicule, quoi.
Je suis pas d'accord. Non, il est allé très ironiquement, et je pense que c'est ce qui a mal été traduit, voir Alonso pour lui demander si il n'aurait pas raté une règle, si les règles n'avaient pas changé. Il s'informait. Le gars, il n'est pas venu en F1 depuis 3 ans, il s'informait, quoi. C'était... Non, vous avez mal interprété.
Alors, passons au concours top pas position, Dino.
Pas top position.
Pas top... Bah non, c'est top pas position. Hein.
On va voir.
En plus, je te rappelle, ça n'est plus ton concours.
C'est vrai.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper, ni question à la con, quoique.
Alors Dino, est-ce qu'on a eu beaucoup de réponses ?
Eh ben non, aucune ! Non, je déclame. Non. Mais ce qui est original, c'est que cette fois-ci, on a eu des réponses et des questions. Alors d'abord, on va peut-être rappeler la question de la semaine dernière, qui était, si vous vous souvenez bien, pendant le début de l'émission, Enzo avait annoncé son retour après avoir été absent parce qu'il avait été enlevé. Tu avais subi un traitement difficile puisqu'on t'avait imposé des inconnus, t'avais imposé de visionner la Super League Formula sur une chaise attachée pendant.
Eh oui, l'entête ! Oui, elle va marquer.
Et donc la question était, au moment de revenir, au début de, enfin, à quelle année te pensais-tu ? Et la réponse était donc Enzo.
2000.
La saison 2000, tout à fait. Nous n'avons eu que des bonnes réponses, malgré le piège qui était tendu. La nouvelle règle, c'est que vous devez, pour valider votre réponse, vous devez nous envoyer une question. On a reçu 6 questions. Ce que je vous propose, c'est plutôt de faire un tirage au sort. Je vous lis les questions et vous choisissez, toi, enfin, Enzo et Shinji, vous choisissez la meilleure question et je vous dirai qui l'a posée, qui gagne donc. Ça marche ?
D'accord.
Ça marche.
Donc voici les questions. Nous avons: quelle équipe a actuellement autant de points grâce au nouveau barème que lors de la fin de saison 2009?
Oh, c'est trop compliqué ça.
Pour quelle raison Hamilton a-t-il été arrêté par la police vendredi soir?
Trop facile.
C'est facile.
Ensuite, question suivante: pour quel pilote le premier Grand Prix d'Australie fut-il aussi le dernier Grand Prix?
Ah, c'est pas mal ça.
C'est pas mal.
Question pour Enzo, ça.
Question historique.
Ouais. Sur quel circuit Aguri Suzuki a-t-il signé sa première, son premier et dernier podium?
Quel rapport avec l'Australie?
Bah, ça c'est sans doute sur un circuit australien.
Bah, Adélaïde, alors.
Eh ben voilà.
C'est pas censé donner là.
Autre question, combien Ferrari a-t-elle signé de doublé jusqu'à celui de Melbourne, de Bahreïn?
Bah, c'est pas allé l'Australie, donc c'est quelqu'un qui a encore rien compris au concours.
Ah, mais j'avais laissé ouvert comme quoi on pouvait
sur
un peu n'importe quoi. Et enfin, la dernière question, quelle fut la particularité de Justin Wilson lors de son arrivée chez Minardi, à savoir que Justin Wilson est un pilote australien.
C'est du premier Grand Prix d'Australie, premier Grand Prix, j'aime bien.
Oh, on part pour celle-là?
Enzo?
Oui, pourquoi pas.
Donc on part pour celle-là.
Donne pas les réponses.
Et c'est Buchor, donc, qui remporte.
Oh, le bachelor.
Qui remporte, après avoir remporté sa première participation au Fantasy F1, remporte sa première participation au concours Top Opposition. Donc Buchor remporte. C'est une victoire qui comptera pour la fin de saison pour savoir s'il a gagné un cadeau ou pas. Donc la question est toute simple, il s'agit de trouver quel est le pilote pour qui le premier Grand Prix d'Australie fut le dernier Grand Prix. Vous envoyez votre réponse sur www.savf1.com. N'oubliez pas, pour que votre réponse soit valide, il vous faut nous envoyer une question sur le...
La réponse.
En pensant, s'il vous plaît,
à la réponse.
Parce que des fois, c'est dur. Vous comprendrez dans quelques temps. Voilà. La question est faite. Alors là, on vous explique juste, bien sans doute, de couper un gros morceau de 10 minutes pour faire genre, mais vous aurez le droit à un petit making-of dans quelques temps. Voilà. C'est le making of mystère.
Ouais, trop con, c'est trop bon.
Bon. Alors, pour terminer cette émission, la prochaine course, dès ce week-end, direction Kuala Lumpur, la Malaisie. Alors, des petits pronos?
Vettel.
Ça va bien finir par passer.
Alonso.
Moi, je dirais Alonso aussi.
Alors, je vais dire Hamilton, alors. La vitesse de pointe, le petit F2, là, faut que ça marche.
Peut-être Schumier.
Ah, c'est pas con. Ah, hein, oh. Frosberg, il tombe bien. Ouais. Non, je vais mettre Di Grassi. Hein.
Bon. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend à l'heure que vous nous écoutez. Sur ce, salut à tous.
Attention, Marc. Il y a les vis devant. C'était ça, il nous écoutait, Marc.
Allez, salut.
Salut à tous.
Bonne soirée.
Ou bonne journée.
Ou bonne journée.
On l'a déjà fait, celle-là.
'Pas une publicité, mais toute l'équipe du SAV de la F1 vous invite à découvrir le site Tout F1 sur www.tout-f1.com.